Accueillons maintenant Monsieur Pascal Haché, psychologue, qui va nous parler de la relation peut-être difficile entre les parents, l'ado et la drogue. Merci monsieur.
Merci pour cette présentation. Merci également à Chantal Calatayude et à toute son équipe pour l'organisation de ces journées et pour leur invitation. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis psychologue depuis une douzaine d'années dans un centre d'aide aux usagers de drogue. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion de rencontrer, à côté de personnes qui consomment des produits qui font souvent l'objet d'une toxicomanie, à savoir de l'héroïne ou d'autres opiacés, eh bien, au fil des années, on peut dire que nos files actives s'enrichissent, entre guillemets, de personnes qui consomment du cannabis. Alors, c'est un peu une nouveauté pour nous, cliniciens, et cette nouveauté m'a amené à pousser une réflexion. J'ai découvert à cette occasion-là qu'il existait quasiment rien en matière de littérature en langue francophone sur les usages de cannabis, et surtout d'un point de vue psychologique ou psychanalytique. C'est donc un petit peu un travail de défrichage auquel je me suis livré, qui a donné lieu à ce petit livre chez Fleurus, ces ados qui fument des joints. Alors, tout d'abord, avant d'aborder ma pratique auprès des adolescents qui consomment du cannabis, ainsi qu'auprès de leurs parents, et puis ce qu'on peut en penser, ce que peuvent recouvrir ces différents usages de produits, parce qu'ils sont multiples, il n'y a pas un profil type, on pourrait dire. Je suis tenté de faire un mea culpa concernant l'attitude des professionnels venant en aide aux usagers de drogue par rapport aux usages de cannabis. À savoir que quand j'ai commencé dans le secteur, il y a une douzaine d'années, on me disait, c'est simple, on me disait, parmi les gens qui viennent dans nos centres, il y a d'un côté les consommateurs d'héroïne ou d'autres opiacés. Ces personnes sont toxicomanes, c'est-à-dire ont une dépendance psychologique aux produits. Par ailleurs, ils présentent une dépendance physique qui, là, appelle un traitement extérieur à la structure de type médical, ce qu'on appelle une cure de sevrage. Mais en gros, on nous disait, les usagers d'héroïne sont dans un rapport de dépendance, de toxicomanie. Ces personnes souffrent, sont malades. Donc ces personnes justifient pleinement leur venue dans nos centres. Et ce qu'on entendait alors, et je disais, et ceux qui fument du cannabis ? Eh bien, la réponse qui était faite aux nouveaux embauchés, aux novices, c'était, en gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir. De temps en temps, on me disait, tu verras arriver débouler des parents un peu anxieux, angoissés, qui ont qui déboule en disant, eh bien voilà, on a trouvé un morceau de résine de cannabis dans la chambre de notre fille ou de notre fils, plus souvent. Dites-moi, est-ce qu'elle est toxicomane ? Et là, on me disait, la conduite à tenir, c'est, mais non, rassurez-vous, monsieur, rassurez-vous, madame, c'est simplement dû à la crise d'adolescence. Ça fait partie des expérimentations. On côtoie le risque, on a un peu le goût du risque, etc. La consommation de cannabis en fait partie, mais ça ne donne jamais lieu à une toxicomanie. Les gens qui fument du cannabis le font uniquement pour essayer ou bien pour s'amuser. Donc voilà le type de représentation avec lesquelles j'ai longtemps fonctionné, à l'instar de beaucoup de collègues. Et voilà donc le type de réponse standardisée que nous étions un petit peu invités par les collègues plus aguerris, eh bien, à fournir aux parents d'adolescents consommateurs de cannabis. Et je dois dire que ce type de réponse, je veux dire, n'épargnait pas les grands spécialistes parisiens de la question qui, pour certains, à côté de leur travail en institution, recevaient également des personnes en cabinet. Alors, cette représentation, elle ne nous a pas trop dérangé, nous professionnels, tant que la venue d'usagers de cannabis dans nos structures demeurait quelque chose de vraiment ponctuel, si vous voulez. C'était pas assez fréquent pour nous pousser à nous remettre en question. Et je dirais que la nature même de la réponse que l'on donnait, réponse un peu banalisante, faisait que ça nous dissuadait nous-mêmes d'avoir envie de brancher nos antennes un peu à fond et d'y voir un peu plus clair. Il a fallu, en fait, pour que nous changions d'idée, il a fallu plusieurs choses. Il a fallu le développement spectaculaire des consommations de cannabis chez les adolescents, d'ailleurs pas seulement chez les ados, hein, j'écris ces ados qui fument des joints, je pense qu'il y aurait tout aussi matière à faire à propos de ces adultes qui fument des joints, mais ils sont encore relativement discrets dans nos institutions, peu fréquents. Donc ce qui s'est passé, c'est que les consommations de cannabis explosent véritablement, quantitativement, depuis quelques années, chez les jeunes. Hein. Je lisais l'autre jour dans Libération, qui se faisait l'écho d'un rapport épidémiologique, comme quoi, à l'âge de 17 ans, plus d'un adolescent sur deux a déjà fait l'expérience de tirer sur un joint. Enfin, pour dire les choses simplement, on a vraiment l'impression que, pour la génération d'adolescents actuels, ça fait partie des expériences à faire. Un peu comme j'ai envie de dire, il y a une vingtaine d'années, dans ma génération, eh bien, on se devait, entre guillemets, de faire l'expérience de prendre une bonne cuite. Généralement, c'était à la vodka orange pour fêter le BEPC ou pour fêter le bac. Or là, maintenant, autant les alcools variés sont... on pourrait dire le produit le plus consommé psychoactivement, la substance psychoactive la plus consommée dans un contexte de fête, enfin pour modifier les états de conscience, dans un sens d'ébriété, d'ivresse, eh bien autant pour la génération qui va suivre la nôtre, le cannabis semble prendre cette place. Donc ça, on ne peut pas l'occulter. Et on ne peut pas, ça rend tous les messages de prévention de type diabolisant, etc., totalement inefficaces. Et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'ils sont faux, ces messages. Je veux dire que l'idéologie du cannabis poison, du cannabis qui rendrait fou, du cannabis qui détruirait les cellules nerveuses, eh bien, cette idéologie, c'est un mythe qui a vécu. Chez les personnes les plus âgées, enfin les générations les plus âgées, ils demeurent un petit peu tenaces, faute de pouvoir rencontrer peut-être des personnes qui consomment des produits et donc de faire évoluer leur représentation. Mais de plus en plus de personnes jeunes, mais aussi de parents, et ça nous facilite la tâche, eh bien, ont des représentations qui sont moins catastrophiques qu'auparavant concernant les effets lui-même du cannabis. Alors, le produit, ses effets, ça, c'est une chose. Et quels que soient les jeunes et les parents que nous rencontrons, eh bien, on est amené à en discuter avec eux, les informer des risques liés au produit, quelle que soit la quantité consommée, les circonstances, on pourrait dire quel que soit le rapport psychologique au produit. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est non pas d'appliquer une lecture, un décodage un peu standard, à l'instar de ce que faisaient nos collègues auparavant, mais de faire du cas par cas. L'approche d'un adolescent qui fume des pétards et celle de ses parents, c'est vraiment du cas par cas. C'est pas parce que le comportement est en apparence le même que les personnalités, les histoires de vie, etc., elles sont les mêmes. Et c'est d'ailleurs tout à fait passionnant, en tant que clinicien, de voir que par-delà des consommations, je veux dire, où le comportement est identique, relativement standardisable, eh bien de voir qu'il y a une telle diversité de motivations psychologiques sous-jacentes et une telle diversité aussi de dynamiques familiales. Parce que ça, on va le voir, certaines consommations de cannabis plongent des racines rien moins que familiales. Non pas au sens où des adolescents fumeraient des pétards pour imiter leurs parents, ça existe, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de très fréquent, mais au sens où quelquefois, eh bien, l'utilisation de cannabis, surtout de façon régulière chez un adolescent, peut être une façon de questionner une histoire familiale quelque peu lacunaire au niveau de ce que les parents ont pu en dire à l'enfant, et notamment, c'est peut-être une façon de questionner leurs propres parents sur leur propre adolescence. Et là, on a affaire à des choses tout à fait passionnantes dans les entretiens où on découvre que quelquefois, les adolescents fument du cannabis pour aménager, entre guillemets, une bulle, on pourrait dire, qui leur serait propre. Ceci sur la base d'un déficit de communication avec les parents qui, lui-même, dans certains cas, peut être dû que les parents sont extrêmement réticents à aborder leur propre adolescence. Donc, faute de pouvoir poser des repères et surmonter leur crise adolescente avec des mots, ce que l'on observe alors, c'est qu'un certain nombre de jeunes vont se tourner vers des comportements, et parmi lesquels des consommations de produits tels le cannabis. Pour dire les choses autrement, si vous voulez, c'est comme si certains adolescents cherchaient dans les effets du cannabis des réponses sensorielles, entre guillemets, qui visent en quelque sorte à pallier l'absence ou l'insuffisance de réponses verbales qu'ils pourraient adresser à leurs parents, qu'ils adressent ou qu'ils attendent de leurs parents. Alors, je peux présenter les choses en plusieurs parties. D'abord, parler au niveau, je dirais, le plus basique, et là, ce n'est pas spécifiquement un travail, ça ne rend pas spécifiquement une pratique de psychologue, mais bon, ça peut permettre au sujet supposé ne pas savoir ou ne rien savoir ou peu savoir en matière de cannabis, d'avoir quelques conseils utiles, de modifier quelques représentations. Concernant donc les effets du cannabis, ensuite je parlerai donc des différents rapports possibles d'un point de vue psychologique au cannabis chez les adolescents, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on peut poser comme hypothèse à la base de ces différents rapports, et puis enfin le travail avec les parents d'adolescents qui consomment des pétards. Alors, concernant les effets, bon, les effets sont connus, et beaucoup de parents d'ailleurs en viennent, sur la base de l'identification de ces effets, à soupçonner l'existence d'une consommation de cannabis chez leurs rejetons. Bon, c'est ce qu'on appelle les fameux yeux rouges, les yeux éclatés, les yeux explosés, etc. L'augmentation soudaine de l'appétit, la démotivation scolaire, l'absence de volonté, on pourrait dire tout court, et puis l'état d'ébriété, et sans oublier également l'humour qui se trouve exacerbé, surtout lorsqu'on est en groupe. Parce que quand on est tout seul, pas forcément envie de rigoler. Hein. Quelquefois, ça peut être bien même l'inverse, y compris chez ceux qui consomment du cannabis. Donc là, on a affaire à toutes sortes de signes. Ceci dit, ce qu'on peut dire aux parents, c'est que ces signes ne sont pas tous spécifiques du cannabis, parents et professionnels. Plus d'une fois, j'ai discuté avec un enseignant qui me disait « Oh là là, celui-là, c'est terrible, je suis sûr qu'il fume comme un enragé tous les soirs, il faut voir la tronche qui se paye le matin, vraiment, il est scotché à son bureau, il a des yeux pas possibles, etc. C'est sûr, il fume régulièrement du cannabis et je suis bien embêté parce que comment faire pour en parler avec lui ? Eh bien, rien. Ce souci de l'enseignant pour l'élève est tout à fait louable. Cependant, on ne peut pas faire de lecture aussi automatique, de cause à effet. Un élève peut très bien piquer du nez pour toutes sortes d'autres raisons beaucoup plus communes, telles qu'un manque de sommeil, je ne sais pas, lié par exemple à un état dépressif ou bien lié à des heures de une fréquentation trop assidue et trop tardive de la télévision, ou bien alors des jeux vidéo trop prolongés, ou bien alors des conflits entre les parents qui perturbent l'adolescent psychologiquement, qui le ronge et qui l'empêche de trouver le sommeil, voire on pourrait dire des moments de tempête sous le crâne caractéristiques de l'adolescence et qui font que là aussi, même si on compte les moutons, on ne s'endort pas tout de suite. Et ça s'en ressent au matin lorsqu'il s'agit d'aller en classe. Donc, d'autres parents, par contre, d'autres adultes en position professionnelle, on pourrait dire, ont les moyens de, non pas de les faire parler, mais au moins de mettre leur rejeton devant le fait accompli. Par exemple, s'ils découvrent tout simplement un morceau de résine de cannabis, ça, beaucoup d'adolescents n'hésitent pas à stocker, pas au sens où ils en ont des quantités effrayantes, mais disons que les morceaux de cannabis qu'ils achètent, plus souvent c'est la barrette, 5 grammes environ, 100 francs en moyenne, et d'après les usagers, 5 à 10 joints de cannabis avec cela. Donc pour quelqu'un qui fume tous les jours, ça fait une semaine en gros. Les adolescents conservent facilement sur eux, dans leurs habits, etc., ce type de... le corps du délit, si on peut dire. Donc là, c'est clair, difficile ensuite pour l'adolescent de se dérober lorsque ses parents cherchent à avoir une conversation avec lui. Comment dire ça ? Alors là, on observe plusieurs attitudes possibles. Ce qui n'est pas inintéressant, c'est de savoir que, certes, dans certains cas, les parents découvrent du cannabis parce qu'ils ont fouillé la la chambre de l'adolescent, ils sont allés vraiment activement à la pêche, si on peut dire, sur la base de soupçonner quelque chose, ou bien alors, ça fait partie, je dirais, ce sont des parents qui ont du mal, d'une façon générale, à privilégier le fait que l'adolescent, enfin, respecter le fait que l'adolescent souhaite avoir un espace qui lui appartienne, et donc sont très effrayés par le fait que, comme tous les autres ados, il se démarque d'eux, il leur parle moins, etc. Et par voie de conséquence, se cramponne à lui, soit en lui prenant la tête, comme on dit, soit en menant une investigation tout à fait concrète dans sa chambre, par exemple en essayant de voir, de lire son journal intime, s'il s'agit d'une fille, parce que c'est plus souvent au féminin, les journaux intimes, ou bien donc de chercher... d'autres choses, je ne sais pas, par exemple trouver des préservatifs qui pourraient laisser à penser qu'il a eu ses premières relations sexuelles, etc. quoi. Et donc, lorsque, donc dans un certain nombre de cas, l'adolescent cache le produit. Mais ce qui est curieux, c'est que des parents, dans d'autres circonstances, eh bien, trouvent assez facilement du produit, voire n'ont qu'à ouvrir la porte de la chambre pour en trouver. Et là, ça permet de poser une autre hypothèse. Est-ce que c'est pas fait ? Est-ce que c'est vraiment laissé là par hasard ? Est-ce que l'adolescent a oublié par hasard de ranger ? Ou est-ce que quelque part, ça ne serait pas un moyen d'attirer l'attention du parent ? Et en fait, lorsque l'on pousse un peu plus loin, eh bien, c'est plutôt la seconde réponse qui est la bonne. Et là, on rejoint, on pourrait dire, toutes sortes de conduites d'exhibition, de démonstratives un peu des adolescents qui sont autant d'appels au dialogue, voire d'appels à l'aide vis-à-vis des parents, tels que eh bien, laisser en évidence une lettre où on exprime que la vie ne vaut rien, qu'on a des idées noires, qu'après tout, la mort, c'est peut-être pas plus mal. Type de confidences qui, d'ailleurs, incidemment, peuvent être glissées à l'occasion d'une dissertation de philosophie et qui, là, pourra attirer l'attention d'un enseignant, s'il fait bien son travail, enfin, s'il a une espèce de plus-value relationnelle, pourra essayer de discuter un petit peu avec l'élève et ensuite de passer le relais au sein de l'établissement vis-à-vis de l'infirmière, de l'AS, puis de l'extérieur si besoin. Donc, quelquefois, l'intervention des parents se trouve facilitée par le fait que le cannabis présent dans sa chambre ou dans ses poches, en fait, constitue un appel à l'aide. Là, voilà un levier qui facilite éminemment les choses. Et ce que ça nous permet de comprendre, c'est que les adolescents, contrairement à ce qu'on peut penser, ne fument pas toujours pour s'amuser ou ne fument pas toujours pour faire une expérience. Alors, je poursuis la partie, je dirais, la plus concrète, la plus basique, concernant les circonstances de découverte du cannabis, etc., de consommation, les effets. Ce qu'il faut savoir en tant que parent, c'est qu'il n'y a rien de plus facile pour un adolescent de se procurer du cannabis. Je veux dire, on en trouve absolument partout. Il ne faut pas se représenter que le vendeur de cannabis, c'est comme le vendeur d'héroïne, etc., le dealer, comme on le voit dans les films ou dans les faits divers, si on lit les procès, les comptes rendus de procès, la personne qui vit dans une cité, qui ne vit que de ça, qui est engagée plus ou moins dans une grande délinquance, qui ne se met pas à table, comme on dit en langage policier, en cas d'interpellation, qui peut-être elle-même toxicomane, qui... effectue des séjours réguliers en prison, non, ça, et qui gagne énormément d'argent, qui roule en BMW, etc., pour épater les copains de la cité, etc. Le vendeur de cannabis, bon, même s'il faut pas, les choses sont pas tranchées de manière abrupte, hein, certains vendeurs de cannabis vendent également de l'héroïne et réciproquement, mais ça n'est pas la règle. Donc, pour ceux en tout cas qui vendent du cannabis, le plus souvent, ce sont d'autres adolescents, des adolescents qui n'ont pas de difficultés sociales, d'insertion scolaire, etc., particulières. Le plus souvent, ça peut être un copain de classe, un voisin, un gars avec qui on fait du sport, etc. Ça peut venir vraiment par le biais des rencontres les plus anodines. Il n'y a pas besoin de se rendre dans des endroits sordides qui ressemblent à des coupes-gorges et de côtoyer des individus extrêmement inquiétants. C'est vraiment donc l'abord du produit, tant par la disponibilité que par, on pourrait dire, la façon d'être des personnes qui proposent de le vendre. Tout ça crée, ça se délimite un cadre dominé par la facilité et par la déculpabilisation aussi. Si on n'est pas obligé de se rendre dans un endroit étrange et de côtoyer des individus étranges pour s'en procurer, après tout, c'est normal, c'est quelque chose, il n'y a pas de mal, quoi, hein, ça met la personne en porte-à-faux avec l'esprit des lois en matière d'usage de cannabis dans notre pays. Alors, il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que l'acquisition de cannabis, elle est extrêmement facile. En plus, c'est un produit beaucoup moins cher que d'autres substances. Le revers, et ça, j'ai rencontré beaucoup d'adolescents qui en avaient fait les frais, c'est que la personne qui vend du cannabis, le plus souvent, c'est quelqu'un qui arrondit ses fins de mois, qui veille elle-même, qui a le souci, on pourrait dire, d'assurer sa propre consommation. C'est pas quelqu'un qui cherche à en vivre, ça peut être quelqu'un qui est issu d'une famille aisée, qui n'a absolument pas de problème d'argent de poche, etc. On ne doit pas avoir de représentation misérabiliste, si vous voulez, des vendeurs de cannabis. Alors, le revers de la médaille, c'est que, comme ce ne sont pas des pros, entre guillemets, pour la plupart dans ce type d'activité, c'est que ils sont plus facilement repérables que les vendeurs d'héroïne par la police, si vous voulez, et par voie de conséquence, plus souvent interpellés. Et autre voie de conséquence, leur amateurisme fait que, pour peu que la maréchaussée mette un peu la pression, et en leur disant que s'ils donnent des noms, les charges retenues contre eux pourraient être allégées, donc on les encourage à la délation des gens à qui ils ont vendu, etc., eh bien, ils passent très facilement à table. Et à l'endroit où je travaille, on l'a vu en quelques mois, défiler 40 jeunes, tous dénoncés, entre guillemets, par le même vendeur, ce qui avait donné lieu à un traitement judiciaire de ces affaires-là, où les jeunes n'avaient pas été condamnés, mais invités en guise d'alternative, eh bien, alternative intelligente d'ailleurs, à se rendre donc dans le centre où je travaille. Et là, par contre, ça avait produit des pataquès familiaux. Les parents n'étaient pas franchement ravis de voir les gendarmes débouler à 6 heures du matin dans leur pavillon avec les chiens, etc., et mettre toute la maison sans su dessous. Pour la plupart, c'est à cette occasion qu'ils découvraient que leur enfant consommait du cannabis. Et ça n'offrait pas précisément un levier à la communication entre ados et parents par le biais de professionnels autour de ces consommations. Bon, autre chose concernant les effets du produit, des effets qu'on connaît moins. Et ça, je crois que c'est tout à fait important que cette information soit véhiculée le plus possible vers le plus large public. Ce sont les risques que la consommation de cannabis produit sur la vigilance. Le cannabis est un sédatif. Les gens le reconnaissent, surtout on dit... On prend ça pour rire, pour être de bonne humeur, pour faire la teuf, etc. Mais ce qu'on identifie moins, c'est que c'est un sédatif. C'est quelque chose qui fait piquer du nez. Et pour certains, comment dire ça ? Certaines variétés de cannabis consommées sont très concentrées, très fortes, et il n'y a pas besoin de fumer beaucoup de joints, quelquefois, pour être vraiment dans un état d'ivresse prononcée. S'ajoute à ça ce qu'on appelle la tolérance individuelle, qui fait qu'à l'instar de l'alcool, eh bien, les individus peuvent réagir d'une façon très différente de l'un à l'autre face à l'ingestion, plutôt l'inhalation, là, dans ce cas-là, d'une quantité identique de produits. Hein. C'est comme pour l'alcool. Il y avait des gens qui boivent un verre d'alcool qui restent imperturbables et d'autres qui s'effondrent, qui roulent sous la table. Donc ça, on le trouve aussi pour le cannabis. Alors, ce qui s'opère dans tous les cas, c'est que le cannabis altère la vigilance et par là même altère les réflexes. Alors, ça peut être gênant déjà dans la rue. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui me disaient, eh bien, j'ai failli me faire dépouiller par une bande que j'ai croisée l'autre fois parce qu'ils ont vu que j'étais pas clair, ils l'ont senti. Et heureusement qu'un copain passé par là en voiture m'a fait signe, que je l'ai appelé, qu'on est parti. Heureusement que j'étais plus très loin de chez moi. Heureusement que j'ai fait comme si je ne les voyais pas et que j'ai commencé à trottiner pour aller un peu plus vite. Sinon, il y avait quelque chose d'un peu prédateur, d'un peu animal dans le regard de ces jeunes-là. Je pense qu'ils ont très bien senti que je n'étais pas en possession de tous mes moyens et donc que je constituais une proie moins coriace pour eux potentiellement que si je n'avais pas fumé. Donc il y a des choses très concrètes à ce niveau-là, et inversement, des jeunes se sont dit, bah, malheureusement, il y a un moment, j'étais tellement à côté de mes pompes, j'avais fumé plusieurs joints, et bien que d'autres jeunes sont arrivés par surprise, et puis m'ont dit, donne ton fric, donne ton portable, etc. J'étais pas en position de me bagarrer, quoi. J'avais l'impression d'être de pédaler dans le yaourt, etc. J'étais pas clair, quoi. J'étais trop assommé, trop cassé par le produit. Donc ça, c'est une occurrence, mais la plus fréquente, et là, c'est là où nous, professionnels, on rame énormément en termes de messages de santé publique, que là, on adresse à tous les consommateurs de produits et de cannabis et à tous leurs parents, ce sont les risques ce sont les risques pris au volant après une consommation de cannabis. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire le plus souvent ? Des jeunes me disent « Ouais, monsieur, mais il n'y a pas de problème. Quand moi, je fume un pétard, je reste clair. Je suis pas, je suis zen, je suis bien, je n'ai pas envie de dormir. Alors que si je bois de l'alcool, c'est clair, là, je vais en avoir un coup dans le nez, etc. Donc, eh ben, je prends ma voiture en rentrant, ou même je ramène les copains. Ça ne présente aucun risque. J'ai jamais eu de problème. » Sauf que j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, l'alcool est un produit franc, alors que le cannabis est un produit traître. Là, il ne s'agit pas encore de diaboliser le produit, mais de dire la réalité de ses effets. À savoir que l'alcool, si vous êtes vraiment ivre, eh bien, vous êtes assommé, on pourrait dire, tant physiquement, de façon votre sensation corporelle, que dans votre tête. Vous le sentez que vous êtes ivre. Alors qu'avec le cannabis, il se produit ce que les médecins appellent une dissociation neuromusculaire, une mauvaise coordination neuromusculaire. Pour dire les choses autrement, ça va se traduire par le fait que si vous êtes au volant en ayant fumé du cannabis, l'information visuellement va être correctement traitée, encore que vous perdez un peu latéralement de champ de vision, un peu rétréci, comme c'est le cas avec l'alcool d'ailleurs. Encore que il semble que l'appréciation des distances soit un petit peu altérée. Mais ce qui se produit surtout, c'est que même si globalement vous avez une idée à peu près juste de votre environnement, si vous devez donner un grand coup de volant ou un grand coup de frein, et là, qu'est-ce que vous découvrez ? La carcasse ne suit pas. Le corps vous laisse tomber en quelque sorte. Et donc là, il y a une perte de réflexe et de qualité du geste qui est tout à fait comparable à celle que produit l'alcool. Sauf qu'avec l'alcool, on le sait. Alors qu'avec le cannabis, malheureusement, certains jeunes, pour en être convaincus, eh bien, ont dû le découvrir, et quelquefois en prenant des sacrés risques, c'est-à-dire en ayant un accident de voiture. Et certains, on peut le penser, l'ont compris en une fraction de seconde, mais ne sont plus de ce monde pour pouvoir en témoigner. Je me souviens d'un jeune qui me disait, j'étais avec un copain, on rentrait, c'était l'été, il faisait très beau, 9h30 du soir, le soleil avait commencé à se coucher. Je revenais au village, une route que je connais par cœur, je parcours tous les jours. C'est un jeune de 20 ans qui travaille, qui a une voiture, qui habite chez ses parents et qui fume du cannabis tous les jours ou tous les soirs. Et qui m'a dit, on était en train de rire, on était bien. Pas de brouillard, la route était droite, etc. Puis juste avant le village, eh bien, il y a un virage que je connais bien, on faisait les 400 coups dans le coin et un bois à côté quand on était plus petit, et on a vu le virage approcher et on a rigolé du virage en repensant à tout ce qui est nos souvenirs d'enfance, au-delà, etc. Et puis on a vu le virage approcher et on riait toujours, on a ri, et d'un seul coup, je me souviens, la voiture a fait plusieurs tonneaux, et puis on s'est retrouvé dans le champ, et quand la voiture s'est immobilisée, mon copain braillait qu'il avait le bras cassé, ce qui avait confirmé ensuite. Il y avait une fracture supracondylaire, l'humérus droit, enfin il y avait une fracture du coude, et ce qui a valu d'ailleurs à ce jeune d'avoir des ennuis par rapport à la justice, parce qu'il était pleinement responsable de l'accident. Donc là on voit bien que l'information était correctement traitée, mais qu'au moment où la personne a donné un coup de frein, c'était déjà trop tard. Il y a eu le réflexe, on avait pris un coup, l'ordre de freiner, si vous voulez dire, le temps qu'il parvienne aux muscles, c'était déjà trop tard. Ça a été corrélé par un magazine grand public qui s'appelle Auto Plus, vous connaissez peut-être certains, qui a fait une enquête officieuse avec des cobayes journalistes, enfin les gens de cette équipe, il y a quelques années, pour apprécié, donc avoir une évaluation un peu scientifique des effets du produit. Et on a constaté qu'à 80 km/h, normalement il faut 70-80 mètres pour s'arrêter par route sèche, ce qu'on apprend dans le code de la route, et bien là il fallait 5 à 12 mètres de plus. C'est quand même énorme pour faire la différence entre carton ou par carton, quelquefois. Également, les cobayes étaient particulièrement sensibles à l'éblouissement. Ce qui se passait donc lorsqu'il croisait un autre véhicule avec ses phares mal réglés, l'éblouissement persistait de longues secondes après le croisement des deux véhicules, donc facteur de risque très important. Et puis enfin, la moitié des cobayes étaient devenus infichus de se garer en faisant un créneau. C'était devenu trop dur, entre la droite, la gauche, devant, derrière, c'était trop compliqué. Donc c'est clair, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir en tant que citoyen. Certes, le cannabis ne rend pas fou, le cannabis ne détruit pas le cerveau, le cannabis n'est pas forcément consommé dans un lien, dans un contexte de toxicomanie, de défonce. Simplement, eh bien, il peut amener divers désagréments, c'est un facteur de risque pour diverses choses de la vie quotidienne. Donc il faut le savoir, il faut que l'information circule. Alors maintenant, je vais revêtir ma casquette un peu plus psy. Qu'est-ce qu'on observe des différents rapports des adolescents au cannabis ? Eh bien, on a plusieurs cas de figure. Grosso modo, on peut en discerner quatre, même si eh bien, on ne peut pas dire que chaque adolescent qui consomme du cannabis est figé une fois pour toutes dans une de ces catégories. Il peut y avoir des passages de l'un à l'autre en fonction de stress, de je ne sais quoi, de traumatisme, ou au contraire d'événements positifs, d'épreuves surmontées. Vous avez tout d'abord les personnes qui vont fumer une seule fois. Alors pour certaines d'entre eux, pas de chance, les parents les surprennent en train de fumer le joint dans leur chambre, ou bien alors ils sont surpris en train de fumer sur un parking par la brigade anticriminalité, les policiers en civil qui passent par là. Et quoi qu'il en soit, donc un certain nombre de jeunes consomment du cannabis à titre expérimental, pour voir ce que ça fait, sous pression du groupe aussi, on pourrait dire, aussi parce que ça fait partie des expériences qu'on se sent tenu de faire lorsqu'on est adolescent à présent, mais ceci dit, ne souhaitent pas renouveler leur consommation. Alors qu'est-ce qu'on entend alors ? On leur dit, mais pourquoi n'avez-vous pas renouvelé, à la différence de certains de vos copains ? Alors, il y a des explications déjà physiques. Il y a des gens qui disent, j'ai vomi, ça arrive, d'autres, j'ai eu mal à la tête. D'autres ont dit je me suis mis à piquer du nez, c'était pas terrible. Ensuite, il y a des explications qui sont plus d'ordre relationnel, en disant pendant la fête, ceux qui riaient en prenant, ils riaient de tout et n'importe quoi. Et moi, je n'aime pas cette forme d'humour, je suis un peu exigeant, ça peut paraître bête, mais j'ai besoin que ça soit marrant pour que je rie. Et que ça soit vraiment partagé. Et ensuite, à la limite, que ce soit de vraies histoires drôles. Donc j'ai trouvé qu'il s'agissait là d'un humour facilement obtenu, qui était tout à fait artificiel et qui ne permettait pas vraiment de tisser des liens de complicité, voire d'amitié entre les participants à la fête. Donc pour cette raison, je n'ai pas renouvelé ma consommation. Voilà ce que nous entendons. Il y a aussi des choses plus libidinales, on pourrait dire, du genre, j'avais un plan avec une fille, je commençais mes manœuvres d'approche, j'avais commencé à la baratiner, etc. L'affaire paraissait bien engagée, simplement, au bout d'un moment, j'avais tellement fumé que j'avais les yeux complètement éclatés, je tenais plus sur mes cannes, etc. La fille l'a très bien remarqué, et puis elle m'a tourné le dos, et j'ai su plus tard, elle a dit à ses copines, qu'est-ce que c'est que cette lavette, qui m'a fait du gringue, mais bon, je veux dire, après, il n'aurait pas pu assurer, moi je veux pas d'un mec comme ça, avec un type comme ça dans la rue, il nous arrive quelque chose, c'est pas lui qui va me défendre, ça serait un peu la honte, quoi, aussi. Donc voilà quelques exemples pour lesquels eh bien, des adolescents consomment une fois mais ne renouvellent pas leur consommation. Ça, je dirais, c'est à peu près un ado sur quatre qui va consommer du cannabis. Après, ce que l'on a, et là c'est vraiment une grosse partie du bataillon, ce sont des adolescents qui renouvellent leur consommation mais qui la restreignent au cadre festif de la fête. On fume seulement quand on est avec les copains. Le reste du temps, eh bien, on s'abstient, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que pour ces personnes, le cannabis sans le groupe, ça n'aurait aucun sens. Ça n'a de sens que parce qu'il y a de la convivialité. Donc les motivations, elles se découlent un petit peu de ce que j'ai dit à propos des consommateurs expérimentaux, et bien, c'est que ces personnes ont besoin de se sentir plus joyeuses, d'améliorer leur humeur et de pouvoir rire de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir spécialement de l'esprit pour rire un bon coup dans ce cadre. Il y a aussi la recherche d'une certaine détente. Et chez certains utilisateurs, des jeux un petit peu avec la pensée, les images. C'est comme si les couleurs étaient vues de façon un peu différente. Quelquefois, l'imagination se trouve stimulée aussi. Même si les idées sont alors un peu fuyantes, même si après on ne se souvient pas de ce qu'on a pu dire, c'est bien dommage, c'est un moment où on perçoit les choses de façon différente et qui, cette façon différente, n'a rien de catastrophique. Alors là, il faut mettre un bémol. Certes, là, on voit tout à fait bien comment un usage festif de cannabis s'inscrit par rapport aux enjeux de l'adolescence, se démarquer des parents, parce que c'est moins souvent le truc des parents, le cannabis. Eux, ils sont plutôt restés à l'apéro, encore que les générations vieillissent, hein, c'est de moins en moins le cas. Moi, je vois de plus en plus de parents qui, eux-mêmes, consommaient du cannabis. C'est aussi, donc, se démarquer des parents, rechercher le contact des autres adolescents, pour cimenter les expériences faites, le contact des autres ados, le cannabis est une expérience parmi d'autres. Hein. Pour d'autres, ça peut être la pratique d'un sport en commun, des prises de risques sur la route, un sport de l'extrême, un engouement culturel commun, groupe musical, etc. Donc le cannabis fait lien social, si vous voulez, agrégat, parmi d'autres procédés entre certains adolescents. Alors, le problème, on peut comprendre que ça soit en pleine cohérence, donc ce type d'expérience, par rapport à l'adolescence, mais quand on discute avec les jeunes, on est amené à faire plusieurs objections. D'abord, le fait que de fumer en groupe ne veut pas dire que tous les fumeurs sont sur la même longueur d'onde, sont dans le même rapport au produit. Ce qu'on dit quelquefois, c'est certes, par exemple, toi tu fumes pour t'amuser, mais qui te dit que parmi tes copains, il n'y en a pas, ils ne s'en trouvent pas, qui fument parce qu'ils sont mal dans leur peau et qui poursuivent leur consommation de manière solitaire lorsqu'ils sont seuls. Simplement par peur d'être éjectés du groupe, tout comme les mauvais buveurs ont peur... craignent les bons buveurs qui associent systématiquement consommation d'alcool et convivialité, ces jeunes-là, eux, ne parleront pas du fait que pour eux, le cannabis vient en tentative d'atténuation d'un mal-être plus prolongé, on pourrait dire, que celui qui se produit normalement à l'adolescence. Le message que nous adressons alors aux jeunes, et ça les parents peuvent s'en faire le relais s'ils ont un adolescent qui fume du cannabis dans un cadre de fête, c'est qu'il y a un côté, il y a une part d'illusion, c'est-à-dire que derrière une pratique, une attitude commune, il y a peut-être des disparités individuelles plus ou moins masquées et peut-être des copains qui auraient besoin d'être soutenus parce qu'ils sont, eux, dans une consommation pas seulement récréative et donc ne visent pas seulement à améliorer leur humeur. Également, ce qu'on observe, c'est que surtout chez les jeunes adolescents, vraiment, 15 ans à peu près, 13-15 ans, qui n'ont pas encore eu d'expérience sexuelle, l'usage de cannabis, le fait qu'il émousse le sens critique, le fait qu'on entende moins à ce moment-là, on craigne moins que l'autre nous dise « mais c'est nul ce que tu racontes, c'est n'importe quoi », c'est la honte, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire. Ça tombe hein, dans les soirées shit, entre guillemets. On a moins envie d'agresser l'autre, de l'allumer, etc., de chercher des noises. Et donc, corrélativement, on se sent plus enclin à avoir une parole libre. Eh bien, ça permet donc à des adolescents qui n'ont pas encore d'expérience sexuelle, déjà de le dire sans honte aux autres adolescents, et puis également de faire part, par exemple, d'interrogations ou de fantasmes ou de rêveries à caractère sexuel, y compris par le biais indirect de blagues obscènes, si vous voulez. Donc ça sert à faire admettre, en quelque sorte, reconnaître par le groupe ses propres hésitations, questions, représentations, fantasmes en matière de sexualité qui n'est pas encore vécue. Donc de ce point de vue-là, pourquoi pas ? La question qui se pose simplement, c'est qu'est-ce qu'il en reste une fois que la fête est finie, que l'ivresse s'est dissipée ? Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il a dit, de ce qu'il a recherché, du type de reconnaissance, d'approbation qu'il a cherché auprès des autres ? Est-ce que les autres se souviennent de ce qui a pu leur être confié et donc peuvent poursuivre la conversation ? C'est là toute la question. Donc voilà quelques exemples de consommation festive de cannabis. Ces consommations sont pas donc n'ont rien à voir avec un usage toxicomaniaque de produits. Elles sont complètement réversibles. Les adolescents disent bah, quand il n'y en a pas, eh bien, on ne fume pas, c'est tout. La question qu'on peut leur poser quand même, c'est vous est-il possible de faire la fête sans cannabis ? Et si on nous dit non, qu'il y a quelque chose de malaisé dans la réponse, là, on peut poser la question d'une difficulté à être en contact avec les autres d'un point de vue général. Et donc, se dire que la consommation n'est peut-être pas seulement que festive, hein, ou qu'il y a du mal-être là-dessous. Ensuite, existe des consommations de type régulière. Et là, c'est notre grande surprise à nous, professionnels de l'aide aux usagers de drogue, c'est que entre les toxicomanes au cannabis, il y en a quelques-uns. 3% des fumeurs de cannabis, c'est pas beaucoup, mais ils existent, il ne faut pas les nier. 3% sur 2 millions de personnes qui fument au moins occasionnellement, ça fait quand même 60 000 personnes. En termes de santé publique, ça vaut la peine de s'en occuper. Donc entre ceux-là et l'utilisateur festif du joint, il y a les consommateurs réguliers. Ceux-là débordent le cadre de la fête, fument régulièrement. Et cet usage vient toujours connoter une accentuation du mal-être à l'adolescence. Ces ados-là sont plus mal dans leur peau que les autres ados. Ça peut avoir toutes sortes de causes qui renvoient là au travail du psychologue et au cas par cas. C'est-à-dire que même si ces jeunes ne sont pas dans un lien de dépendance au produit, leur consommation est suffisamment régulière, ils leur font jouer un rôle qui n'est pas du tout festif ou pas seulement. Donc il y a une souffrance là-dessous dont ils cherchent à atténuer les effets sur eux-mêmes. Et ça vaut la peine d'avancer avec eux en termes de soutien psychologique. On peut dire que ce sont des jeunes qui reçoivent trop fortement les impressions du dedans comme celles du dehors, tant ce qu'ils ressentent, qui peuvent les déstabiliser. Je ne sais pas, par exemple, des fantasmes homosexuels qui font douter de l'orientation du choix d'objet sexuel, ou bien alors des rêves qui dérangent, des obsessions, des impulsions qu'on n'arrive pas à nommer, ou bien alors ça peut être le fait d'être facilement blessé par l'opinion des autres, le regard des autres, ou le fait de démarrer au quart de tour dès que quelqu'un se moque. Et là, le point commun, les gens disent, bah, en fumant ça, on arrondit les angles du dedans comme du dehors, ça nous arrive moins fortement dans la tronche, en quelque sorte. Et là, ce qu'on voit, c'est que le cannabis régulier ne vise pas à escamoter, si vous voulez, quelque chose de l'ordre de la réalité de ce que la personne est amenée à vivre, mais à temporiser pour lui donner le temps de se familiariser. Parce que dans un premier temps, c'est trop dur à digérer, quoi. Ces choses qui montent soit du dedans ou bien alors qui arrivent du dehors. Donc, dans ce cadre-là, on peut dire que c'est ça, c'est pour donner du temps. Pour donner du temps au temps. Mais dans tous les cas, le psychologue travaille alors avec l'adolescent pour l'aider à trouver d'autres moyens que le recours régulier au cannabis, eh bien, pour pouvoir faire face de manière moins heurtée, moins écorchée vive, à ce qui peut lui survenir du dedans comme au dehors. Et un travail avec les parents est tout à fait fructueux de ce point de vue-là, parce que ce qui fait qu'un adolescent va fumer régulièrement du cannabis, ça peut être entre autres le fait qu'il y a eu une révélation brutale au sein de la famille. J'ai eu plusieurs patients qui ont découvert, dont les parents leur ont dit d'un seul coup, alors qu'eux-mêmes étaient en pleine crise d'identité, qui suis-je, d'où je viens, où je vais, etc., qui apprenaient par exemple que leur maman avait été victime d'un abus sexuel au même âge, ou bien alors que leur père n'était pas leur père biologique. Enfin bref, des secrets de famille qui étaient alors révélés par l'entourage et qui, ma foi, ajoutaient, qui donnaient encore plus de boulot psychique à accomplir par l'adolescent. Et ce qu'il y a simplement, c'est que là, les adolescents demandaient en quelque sorte du temps pour pouvoir digérer des révélations impressionnantes. L'usage de cannabis eh bien, servait alors d'extenseur temporel pour les aider un peu à digérer. Il faut dire que les secrets révélés à ce moment-là aussi étaient en eux-mêmes, en soi, digeste, si on peut dire, du fait qu'ils avaient les caractéristiques suivantes. Ils étaient faits par les parents eux-mêmes, les détenteurs du secret, non pas un biais, par un biais latéral. Ils étaient confirmés par le parent et aussi ne concernaient pas systématiquement la filiation du sujet. Donc c'était moins déstabilisant en termes de crise identitaire. Et alors le dernier type de rapport au cannabis, donc celui qui est encore le plus méconnu, c'est celui donc des consommations toxicomaniaques de cannabis. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens toxicomanes au cannabis, tout comme il y a des, on pourrait dire des toxicos de l'alcool, les malades alcooliques, tout comme il y a des héroïnomanes. Ça existe, on en rencontre dans nos institutions. Donc pour eux, il ne s'agit pas de faire la fête ou bien alors d'utiliser de façon régulière mais réversible un produit pour digérer des choses un peu éprouvantes. Il s'agit de bétonner véritablement le plus souvent le souvenir accablant d'une chose qui s'est réellement produite. J'ai un cas princeps dont j'ai développé dans mon livre d'une dame qui avait été incestée par son père à l'âge de 12 ans, qui a vécu ensuite une adolescence effroyable parce qu'elle ne pouvait absolument pas partager tous ces jeux de séduction, de flirt, etc., à l'instar des autres adolescentes. Elle a développé, on pourrait dire, une allergie très forte aux hommes, frigidité, supportant même pas d'être touchée. Et les choses, elle n'a pu desserrer en quelque sorte, elle n'a pu soulever, si vous voulez, le couvercle du tombeau psychologique où elle avait enfoui le souvenir accablant de ce qui lui était arrivé, qu'en devenant toxicomane au cannabis, en faisant du cannabis, des effets du cannabis, on pourrait dire une protection, un filet à temps plein, qui joue alors deux rôles faisant appel chacun aux deux grands effets du cannabis, la sédation et l'amélioration de l'humeur. Par la sédation, il s'agissait de mettre un verrou supplémentaire à la porte, déjà doublement verrouillée, qui contenait l'espèce de caveau où gisait le souvenir malheureusement vivace de l'expérience qu'elle avait tenté d'enfouir, d'oublier à tout jamais, à savoir que son père avait abusé d'elle sexuellement. Mais simultanément, lorsqu'une personne est amenée à faire sécession d'une partie d'elle-même, de la sorte, cela entraîne un appauvrissement de la vie psychique, parce que c'est une partie de la personne qui est ainsi mise au placard ou au congélateur. Et là, les effets euphorisants du cannabis étaient compulsivement recherchés par cette patiente, pour tenter de pallier sur un mode sensoriel, on pourrait dire, toute une affectivité, et notamment la capacité à désirer, à aimer la vie, l'élan vital, qui s'était trouvé mis au tombeau, on pourrait dire. Donc on voit bien un exemple possible. Cet exemple témoigne donc que pour certaines personnes qui ont vécu des choses particulièrement épouvantables, les effets du cannabis peuvent être recherchés de manière addictive pour tenter d'assouplir, de rendre moins douloureux le rapport à soi-même et partant de là aux autres, quoi. Donc voilà pour les différents rapports possibles au cannabis. Je m'aperçois qu'il est déjà presque moins 5. Je suis plutôt habitué à faire des interventions longues. Donc je voudrais passer la parole s'il y a des questions.
Des questions ?
Oui, il reste. C'est pas une question. C'est est-ce qu'il vous reste encore un peu de temps pour nous dire quelle est la place des parents il vous reste quelques minutes.
Oui, qu'est-ce que peuvent faire les parents
oui,
Alors, je dirais qu'il n'y a pas de recette. Il y a plutôt des extrêmes à éviter. Le plus souvent, ce que l'on conseille aux parents qui apprennent qu'un enfant, leur enfant consomme du cannabis, c'est d'allier des réponses de fermeté éducative à des réponses d'ouverture. D'abord, nul n'est censé ignorer la loi. Quoi qu'on en pense, et y compris les professionnels ont leur idée sur la question, le cannabis demeure en France un produit dont la consommation est interdite par la loi. Et la simple consommation peut être punie, d'après les textes de loi, d'un an d'emprisonnement ferme et de 25 000 francs d'amende. Alors même si dans la réalité, le législateur, par le biais de la garde des Sceaux, il y a 2 ans, a demandé au procureur de privilégier d'autres types de réponses que la condamnation, plutôt des réponses type ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique, donc dire à un jeune, on ne te poursuit pas, mais tu vas consulter dans un centre spécialisé, etc., pour en quelque sorte, le judiciaire ouvre une porte vers le sanitaire. Alors, cet aspect-là, cet aspect d'interdiction du cannabis, les parents peuvent et même doivent s'en faire le relais, se désolidariser donc de la croyance selon laquelle on peut fumer librement du cannabis. Les parents peuvent refuser que l'argent de poche serve à acheter du cannabis et voire fermer partiellement ou totalement le robinet s'ils ne reçoivent pas de réponses vraiment crédibles de leur adolescent de ce point de vue-là. Ils peuvent également refuser que du cannabis soit stocké chez eux, parce que, y compris si l'adolescent est mineur, ils en sont légalement responsables, donc légalement responsables aussi de ce qui se trouve, de ce qui se trouve dans leur domicile. À côté de ça, ce qu'ils peuvent, ils peuvent aussi, s'ils sont un petit peu instruits des effets du cannabis, et ça, il y a eu des gros efforts de santé publique, eh bien, essayer de discuter avec l'adolescent en disant « Mais est-ce que tu sais qu'il y a tel risque, tel risque, tel risque ?» Donc voilà, pour l'aspect, on pourrait dire, fermeté éducative et justification au nom de la loi, au nom des effets, ceci, cela. Et à côté de ça, dire « Bon, on croit savoir qu'on ne fume pas systématiquement, dans tous les cas, pour s'amuser. C'est pas seulement faire une expérience ponctuelle, c'est pas seulement fumer pour faire la fête. » On sait qu'on peut aussi fumer parce qu'on est mal dans sa peau. Et là, eh bien, on est là, on est disponible. Si tu as besoin de parler, plutôt que de te confier entre guillemets aux produits et aux effets qu'il aura sur toi dans une espèce de dialogue sensoriel où rien ne reste vraiment élucidé, où il manque des mots pour dire les choses, eh bien, nous, on peut en parler avec toi si tu as des soucis. Et si ça ne suffit pas ou si tu ne souhaites pas parler de difficultés avec nous, on peut faire une démarche pour que tu ailles rencontrer quelqu'un à l'extérieur. Donc voilà, très schématiquement, mais très, très simplement, l'attitude que l'on peut tenir. Alors, on peut aussi chercher à discuter avec le jeune de qu'est-ce que ça t'apporte, quelle est la fréquence de ta consommation, tout en lui disant qu'il ne s'agit pas alors de le fliquer, mais au nom d'un souci pour lui. C'est-à-dire de chercher à voir s'il s'amuse ou bien, pour rejoindre le point précédent, s'il s'agit du signe d'un mal-être. De lui dire aussi, mais si on sait bien qu'à ton âge, et d'ailleurs notre génération n'était pas différente, on a besoin de faire des choses plus ou moins étranges, farfelues, marginales, etc., prendre des risques, des conduites à risque à l'adolescence pour grandir, pour se démarquer des parents, mais est-ce que il n'y a pas déjà suffisamment d'opportunités du côté des choses qui ne sont pas interdites par la loi. Dire si tu veux sauter l'élastique, je ne sais quoi, avoir des sensations fortes, etc., tu peux en avoir sans consommer un produit dont la consommation donc même est interdite par la loi, donc pouvant amener un certain nombre d'ennuis. Ça peut être quelque chose, un discours qui peut être retenu. Et moi, ce que je sens, c'est que les jeunes tiennent de moins en moins leurs parents pour des ringards sur la question. Il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas dit ça. Et donc ça doit inciter les parents à ne pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, à verrouiller, à interdire là où c'est nécessaire, à faire preuve de fermeté, mais à ouvrir par ailleurs, parce que les représentations que les ados se font des représentations parentales du cannabis sont un peu moins méprisantes, si vous voulez, qu'auparavant. Mais ceci dit, gardez à l'esprit aussi que dans la plupart des cas, c'est un phénomène qui sera transitoire, dans 97% des cas. Par contre, si votre fils ou votre fille consomme de l'héroïne, là, c'est d'emblée beaucoup plus sérieux. Ça nécessite, à mon avis, dans tous les cas, de se rendre dans un centre spécialisé parce qu'on consomme très rarement du cannabis pour s'amuser ou parce qu'on est un peu plus mal dans sa peau que d'ordinaire. C'est plus souvent parce qu'on a des difficultés telles qu'on a besoin d'essayer de couler une dalle de béton pour anesthésier tout ce qu'on ressent, quoi. Voilà quelques éléments de réponse. Je m'en excuse, bref, du fait que j'ai mal géré mon temps d'intervention.
Merci, monsieur. Vous pouvez rencontrer M. Haché sur son stand où il dédicacera son ouvrage.